Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guerin et Eric Manelakiza en direct de la capitale américaine. Jeudi 14 février 2019, le monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel, et au sommaire ce soir.
Au moins 43 disparus, en majorité des Béninois, dans un naufrage sur le fleuve Niger.
Au Cameroun, plus de 150 opposants inculpés pour hostilité contre la patrie et insurrection.
Dernier jour de campagne électorale au Nigeria, les deux principaux candidats sont rentrés dans leur état d'origine pour leur dernier meeting.
En RDC, l'armée salue et encourage une reddition des miliciens dans plusieurs provinces du pays.
Ici aux États-Unis, premier vote possible ce soir au Congrès pour éviter un shutdown.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Le gouvernement sénégalais a minimisé l'impact des appels de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade à empêcher la tenue du scrutin présidentiel. Dakar a assuré qu'il était devenu impossible de truquer des élections dans le pays.
Au Nigeria, les candidats à la présidentielle ont bouclé leur campagne pour le scrutin de samedi. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les deux principaux candidats, le président sortant Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar, sont rentrés dans leur état d'origine, Katsina et Adamawa, pour tenir leur dernier meeting. Monsieur Buhari, 76 ans, et son rival de 72 ans vont voter dans leur village. Dans un communiqué intitulé « Adresse à la nation », Monsieur Abubakar a accusé le chef de l'État d'avoir échoué dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre la corruption. Le Nigeria ne pourra pas survivre à 4 ans de plus de cette médiocrité et de cette mauvaise gestion, a écrit l'ancien vice-président. De son côté, Monsieur Buhari a reconnu que son mandat n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a toutefois insisté sur les progrès réalisés, demandant à ses partisans de lui permettre d'achever les chantiers anticorruption et économiques. Mercredi, les candidats ont signé un accord de paix promettant d'accepter les résultats. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier prévoyant l'annonce des résultats.
Les rebelles des Vengeurs du Delta du Niger ont apporté leur soutien à l'opposant Atiku Abubakar. En cas de victoire, ils exigent qu'il mène des réformes structurelles dans les 6 mois pour éviter davantage de troubles. En revanche, ils préviennent le président Buhari qu'ils paralyseront l'économie nigérienne à nouveau s'il est élu. Et ces rebelles s'attaquent régulièrement aux infrastructures pétrolières dans le sud-est du Nigeria.
Près de 200 anciens membres camerounais de Boko Haram sont volontairement rentrés depuis un appel lancé il y a un an par le président Paul Biya. Un millier de ces ex-djihadistes sont rentrés au Cameroun. Un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion leur permet de reprendre une vie normale.
151 personnes ont été inculpées hier au Cameroun pour hostilité contre la patrie et insurrection. Parmi elles, le principal opposant, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
Les inculpés ont été placés sous mandat de dépôt selon l'avocat Emmanuel Sim, vice-président du MRC. Une vingtaine de personnes ont bénéficié de la liberté provisoire. Elles ont dû présenter des garanties et payer une caution. Mardi soir, Maurice Kamto et environ 150 de ses partisans, arrêtés fin janvier, placés en garde à vue depuis, ont été amenés devant un tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont passés par vagues devant les juges. Une première vague comprenant le leader du MRC a été inculpé pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie et transféré à la prison centrale de Yaoundé. Les leaders du MRC sont poursuivis pour 8 chefs d'accusation et les militants de base le sont beaucoup moins, selon Maître Sim, qui précise qu'ils sont tous collectivement accusés d'hostilité contre la patrie et insurrection. L'hostilité contre la patrie est passible de la peine de mort en vigueur au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans.
Au Niger, les recherches se poursuivent pour retrouver les corps d'une quarantaine de victimes après le naufrage de leur pirogue hier. L'accident est survenu près du village de Ouna. Une embarcation en provenance de l'île béninoise de Gourouberi a chaviré avec son bord une centaine de passagers. Les précisions de notre correspondant Abdulazak Idrissa.
Jusqu'à 15h temps universel, aucun corps n'a immergé des eaux du fleuve selon le maire de la commune rurale de Sambira lors des premiers secours hier. En plus des 62 personnes sauvées, 43 paires de chaussures avaient été retrouvées sur les lieux.
Le fleuve est en trop plein, il faut 24 heures pour que les corps puissent commencer à surnager. Et donc on a mobilisé la population, d'abord les pêcheurs, tous ceux-là qui ont les pirogues. On a mobilisé également les services de l'environnement qui ont une vedette, la gendarmerie qui a aussi une vedette, et aussi le service de la douane. Le mot était vraiment de veiller pour que lorsque les corps commenceront à faire surface, de pouvoir les récupérer pour que puisse procéder à l'identification.
Autorités nigériennes et béninoises à la frontière prévoient de se retrouver bientôt pour réactiver des mesures d'interdiction de navigation la nuit, ainsi que la surcharge et l'embarquement des personnes et des marchandises ensemble. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et dans le nord de la Zambie, un bateau a également chaviré sur le lac frontalier de la RDC. Une vingtaine de personnes sont portées disparues. Plus de 40 passagers étaient à bord.
En RDC, l'armée enregistre de nouveaux cas de reddition des miliciens dans les régions du Kasaï, de l'Ituri, dans le nord et sud de Kivu. Et dans le Maniema, les miliciens démobilisés sont amenés et regroupés vers l'état-major le plus proche. L'armée garantit la prise en charge et invite d'autres groupes armés à faire de même en contactant les commandants de la région la plus proche. Ces mouvements de reddition s'observent depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi.
Au Burundi, le gouvernement a agréé la nouvelle formation politique du principal opposant Agathon Rwasa. Il a créé son nouveau parti dans la perspective des élections de 2020. La nouvelle constitution adoptée en 2018 ne permet plus à une coalition d'indépendants de se présenter.
Au Zimbabwe, une vingtaine de mineurs illégaux sont présumés morts au fond d'une mine d'or inondée au sud de la capitale Harare. Un administrateur local indique que les chances de retrouver des survivants sont très faibles.
Au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui en soutien aux millions de victimes des conflits qui déchirent le pays. Les manifestants ont répondu à l'appel des organisateurs des protestations anti-gouvernementales qui ont promis de poursuivre leur mouvement jusqu'au renversement du régime.
Premier vote aujourd'hui au Parlement égyptien pour permettre au président Abdel Fattah al-Sissi de se représenter. Au total, 14 amendements doivent être examinés ainsi que 9 nouveaux articles. La durée maximale du mandat présidentiel sera revue à 2 fois 6 ans contre 2 fois 4 ans actuellement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les deux chambres du Congrès vont voter sur un budget finançant le gouvernement jusqu'au mois de septembre. Le président Trump devra le signer d'ici demain pour éviter une nouvelle paralysie des administrations fédérales. Abdourahman Dia.
Le budget, dont les grandes lignes ont été négociées par un comité bipartisan, prévoit 1,3 milliard de dollars pour construire environ 90 kilomètres de nouvelles barrières à la frontière avec le Mexique. Même si le président réclamait 5,7 milliards de dollars, il a semblé désamorcer la menace d'une nouvelle paralysie des agences fédérales américaines. Il s'est tout de même dit extrêmement mécontent. « Je ne pense pas que nous allons avoir un shutdown », avait déclaré Donald Trump. Il pourrait user de ses droits constitutionnels pour construire le mur si le Congrès refuse de lui accorder les fonds. « Quand on additionne ce que je pourrais ajouter, cela va marcher, nous allons construire un beau mur, grand et solide », a déclaré Donald Trump. Jusqu'à ce matin, la Maison-Blanche refusait de dire s'il allait signer la loi budgétaire. Le président lui-même a déclaré qu'il attend de voir s'il n'y a pas de piège dans le texte.
Attentat au nord de Bagdad en Irak. 8 membres de la milice liée à l'influent leader chiite Moqtada Sadr ont été tués dans une explosion qui a visé l'un de leurs convois. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.
Iran, le président Hassan Rouhani promet de sévir contre le groupe mercenaire qui a tué 27 membres de l'armée d'élite du régime dans un attentat suicide. Il a de nouveau accusé Israël et les États-Unis, ses ennemis, de soutenir le terrorisme.
Conférence sur le Moyen-Orient à Varsovie. Le vice-président américain exhorte les Européens à se retirer de l'accord nucléaire sur l'Iran. Mike Pence a dénoncé l'initiative de la France et de l'Allemagne et du Royaume-Uni visant à permettre aux entreprises européennes de continuer à opérer en Iran malgré les sanctions américaines.
Et de leur côté, les présidents russes, iraniens et turcs se sont réunis dans le sud de la Russie pour tenter de trouver un règlement au conflit syrien où le groupe État islamique est acculé et que Washington prépare son retrait militaire. Le retrait annoncé par Donald Trump de 2000 membres des forces américaines de Syrie est considéré comme un pas positif par l'Iran, la Turquie et la Russie, a déclaré Vladimir Poutine à l'issue d'un sommet entre les trois pays.
Venezuela, des militaires ont renforcé le blocage d'un pont frontalier avec la Colombie pour faire barrage à l'entrée de l'aide humanitaire américaine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La Société nationale de raffinage du Cameroun, Sonara, a été retenue par la Société nationale nigériane de pétrole pour acheter du pétrole brut au Nigeria de juillet 2018 à juin 2020. La Sonara révèle qu'un accord de près de 44,6 milliards de francs CFA a été conclu en avril 2018 entre le Cameroun et la Banque islamique de développement. D'après Investir au Cameroun, ces fonds permettront aussi à la société d'augmenter ses capacités de production à 3,5 millions de tonnes par an et de diversifier ses produits afin de satisfaire davantage la demande nationale, voire sous-régionale. L'économie togolaise devrait renouer avec une croissance plus vigoureuse en 2019. L'activité économique est promise à une progression de 5,% selon la Banque africaine de développement. Cette reprise sera portée par le secteur agricole, le secteur énergétique tourné vers les énergies renouvelables et une forte mobilisation des recettes fiscales. Pour finir, le Maroc et la Banque africaine de développement ont signé un accord sur un prêt de 96,6 millions de dollars destiné à financer un programme d'amélioration de l'accès à l'emploi. Le ministre marocain de l'économie et des finances, cité par Ecofin, a précisé que ce programme, qui couvre la période 2019-2021, vise essentiellement la création d'environ 100 000 emplois par an, aini que l'accompagnement de 111 000 bénéficiaires de la formation qualifiante, dont 50% des filles.
Et dans la page des sports, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football, le Sénégal a rejoint le Mali en finale de la CAN des moins de 20 ans.
Oui, pour la troisième fois d'affilée, le Sénégal va disputer la finale de cette compétition. Hier, les Lionceaux ont validé leur billet en écartant l'Afrique du Sud 1-0 en demi-finale au stade Sénou Koundié de Niamey. Dominateurs, les poulains de Youssouf Dabo ont attendu la toute fin de match pour prendre les devants en profitant d'un but contre son camp de Givemore coupé à la 78e. Écoutons l'entraîneur des Lionceaux, Youssouf Dabo.
Depuis le début du tournoi, ça a été le match le plus compliqué pour nous. D'abord parce que l'adversaire était bien en place avec un bloc bas. Donc le rapport de force sur ce match, c'était une équipe qui voulait procéder par contre et qui nous obligeait à jouer en attaque placée. Et en deuxième mi-temps, on a essayé de s'appliquer avec une petite variante pour aller chercher notre attaquant directement. Mais je savais que le salut passait par les couloirs. Il fallait gagner les duels offensifs dans les couloirs et finir sur des centres. On l'a fait, ils ont marqué contre leur camp. C'est le risque quand on est en bloc bas, tant mieux pour nous.
Les Sénégalais affronteront dimanche en finale leur voisin malien, tombeur des Nigériens au tir au but. Mamoutou Kané Dimourlé est le sélectionneur des Aigles du Mali.
La clé de ce match, c'est le bon Dieu. Les deux équipes étaient presque engagées, tout le monde était engagé, tout le monde était là pour gagner le match. Je suis fier, j'ai été la première équipe à faire la défaite ici et j'ai été la première équipe à être en finale de la Coupe d'Afrique. Je dis bravo au peuple malien.
Mamoutou Kané et Youssouf Dabo étaient au micro de Siaka Traoré, notre correspondant qui suit cette CAN junior pour nous.
Et toujours pas de victoire pour le champion en titre en Coupe CAF, n'est-ce pas?
Oui, après leur match nul sur le terrain d'Agadir 1-1 lors de la première journée, les Marocains du Raja Casablanca ont encore concédé un match nul à domicile face aux Congolais de l'AS Otto 0-0. De leur côté, les Tunisiens de l'Étoile du Sahel se sont contentés d'un match nul au Burkina Faso face à Salitas 0-0 également. Ladji Koulibaly, coach de Salitas.
On a eu trop de problèmes, surtout les 20 premières minutes. Donc l'équipe adverse a pris l'ascendant sur nous au milieu du terrain. Et c'était logique qu'ils créent beaucoup plus d'occasions par rapport à nous. C'est vers la fin qu'on a pu se ressaisir un peu.
Un match nul de 0-0 qui n'arrange personne, comme nous le dit l'entraîneur de l'Étoile du Sahel, Roger Lemay.
Ce résultat nul n'avantage personne. Au contraire, je pense que de toute façon, on restera dernier. On s'attendait pouvoir gagner le match. On a eu aussi l'occasion en début de match, mais on n'a pas scoré.
Ces réactions depuis Ouagadougou ont été recueillies par Salif Kabouré, notre correspondant sur place.
Merci Yacouba et à demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakidza et Morgan Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Jour J-2 au Nigeria pour la présidentielle et les législatives. C'est l'heure des derniers préparatifs pour la commission électorale et d'autres organisations de la société civile qui veillent au bon déroulement de ces élections. La capitale nigériane abrite un centre d'analyse des élections pour lutter contre les fausses informations ou fake news avant, pendant et après le vote. Et les détails avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le centre fournira une analyse précise et en temps réel des événements qui se déroulent avant le jour du scrutin et durant la période post-électorale de manière systématique. Juliette travaille avec le Centre pour la démocratie et le développement.
Et nous avons créé le centre pour collecter les informations, pour les recevoir et les vérifier et clarifier ça pour le public.
Au Nigeria, les médias sociaux jouent un rôle important dans la diffusion de l'information, notamment en période électorale. Comme lors des élections de 2015, les rumeurs, des mensonges et la désinformation pourraient se propager à travers les médias sociaux. Djibril Ibrahim est l'ancien directeur du Centre pour la démocratie et le développement.
Bon, on a pensé que les processus électoraux au Nigeria deviennent de plus en plus compliqués. Il y a tellement de facteurs qui jouent et il faut avoir un centre où il y a des analystes de très haut niveau qui peuvent suivre ces processus électoraux.
Une douzaine d'analystes provenant d'universités de la société civile ont été recrutés pour gérer ces centres. Ils vont travailler avec des observateurs déployés sur le terrain. Objectif, leur permettre de recevoir des estimations exactes des votes dans les différents bureaux de vote à travers le pays et procéder à une compilation parallèle des résultats provisoires reçus dans chaque bureau de vote. Djibril Ibrahim.
Oui, on fait ce qu'on appelle le comptage parallèle. Et là, on travaille avec d'autres groupes d'observateurs pour comparer quelles sont les tendances dans chacun de ce qu'on appelle wards du pays.
Du côté de la commission électorale, tout semble être prêt pour le scrutin du samedi, notamment le déploiement du matériel électoral. Plus de 800 000 agents électoraux ont été déployés par la CENI. En plus, des observateurs nationaux et internationaux sont en train de se déployer dans les 36 États du pays. Précision du porte-parole de la CENI, Aliou Bello.
We have domestic and international. For the domestic, we have 190.
Nous avons des observateurs nationaux et internationaux. Au niveau national, il y a 119 groupes d'observateurs. Et à l'international, il y a jusqu'à 35 groupes d'observateurs parce que ce nombre peut augmenter. Mais avant de clore le nombre, nous allons travailler avec le nombre déjà présent sur le terrain, c'est-à-dire 35 groupes.
Les deux principaux candidats, le sortant Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, vont voter chacun dans son état d'origine. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février se poursuit. Les candidats tentent de convaincre avec leur programme en répondant aux attentes des électeurs. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagay nous parle aujourd'hui des attentes des jeunes qui représentent les deux tiers de la population sénégalaise.
À Dakar, beaucoup de jeunes sont sans emploi et ils espèrent que le président élu va trouver le moyen de mettre fin à la croissance du chômage qui est estimée à près de 15% par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pour Elef Sadio, le candidat qui sera élu devra mettre fin au favoritisme dans les recrutements.
Dans notre pays, pour qu'on puisse avoir un président qui va donner pour les jeunes du travail, pour qu'on puisse améliorer du secteur du chômage aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, et sans travail. Il y a des gens qui sont dans des postes et qui n'ont même pas de diplôme aussi. Si tu n'as pas de bras longs, tu ne travailles pas au Sénégal.
Pour Mamadou, 36 ans, en plus d'amener une solution pour l'emploi des jeunes, le président élu devra également garantir plus de sécurité aux citoyens.
On les a écoutés. On attend aussi sur les candidats qui réagissent sur l'emploi des jeunes, l'emploi et la sécurité de ce pays surtout.
Athanas Silva, lui, espère que le casse-tête de l'emploi sera réglé et que le futur chef de l'État pourra assurer de meilleures conditions d'existence aux Sénégalais.
Ce que j'attends des cinq candidats, c'est toujours le travail et essayer de satisfaire les besoins des Sénégalais, de la population qui les a élus pour les cinq années à venir.
De son côté, Serigne, 26 ans, estime qu'il y a des acquis à consolider et des choses à prioriser pour les années à venir.
Bon, en général, je peux dire que ça va, parce que là, j'ai vu beaucoup de réalisations. Mais d'une part aussi, je peux dire que ça ne va pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Donc, vu leur comportement, leur façon de faire et leurs priorités aussi. Parce que je dis que il y a des priorités. Je peux citer un exemple, la terre. On n'en a pas besoin, sérieusement. À mon avis, on n'en a pas besoin. Parce qu'il y avait d'autres priorités que la terre.
Au Sénégal, les principales attentes des jeunes tournent autour de l'emploi car des milliers de diplômés sont au chômage ou sont obligés de s'orienter vers le secteur informel pour avoir des revenus décents. Pour les jeunes citoyens rencontrés, le président qui sera élu le 24 février devra régler en priorité le problème de l'emploi. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Après 10 ans de ruines et servi de base militaire à l'armée somalienne, le Théâtre National renaît de ses cendres. Cet endroit, jadis connu comme le centre de la sagesse, est en train de changer de visage et se prépare à accueillir de nouveaux spectacles. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Pour de nombreux civils somaliens, la réouverture du théâtre est un signe de progrès et d'espoir malgré les attaques quotidiennes d'insurgés islamistes. Ousmane Guiré, le directeur du théâtre, suit de près les travaux de rénovation.
Le toit et les chaises ont été commandés à l'étranger et nous espérons que les travaux de construction se termineront dans les 3 prochains mois. Le premier concert sera présenté au théâtre et est prêt et s'appelle « Gouvernement intérimaire ». Nous espérons que le théâtre sera également un lieu propice pour promouvoir la sagesse et apporter le divertissement et qu'il retrouvera aussi sa réputation d'antan.
Les Chinois ont achevé la construction du théâtre en 1968. Lorsque la guerre civile a éclaté en 1991, le bâtiment qui pouvait accueillir 1200 personnes est devenu une base militaire. Les islamistes ont par la suite occupé le théâtre en 2006 et jouer de la musique ou présenter une pièce de théâtre était devenu punissable par des coups de fouet. Le calvaire de ce centre culturel a pris fin lorsque les troupes de maintien de la paix de l'Union africaine ont repris le contrôle de la capitale en 2011. Aujourd'hui, le gouvernement et des hommes d'affaires locaux ont restauré le théâtre pour un montant de 3 millions de dollars. Une initiative appuyée par le président Mohamed Abdoulaye Mohamed.
C'est un grand succès. Cela montre que notre pays est prêt pour la reconstruction. À travers cette opération surnommée « Opération volontaire de reconstruction de votre pays », nous avons montré de quoi nous sommes capables. Nous pouvons ramener la beauté de notre pays en le reconstruisant.
Les employés du gouvernement ont également fait des dons et se sont portés volontaires pour la reconstruction. Un élan qui est encouragé par des mesures de sécurité, selon le directeur national du théâtre, Ousmane Gouré.
La sécurité du théâtre sera assurée comme dans n'importe quel bâtiment de Mogadiscio et beaucoup d'autres lieux publics où les personnes se rencontrent. Et si Dieu le veut, nous allons y arriver.
L'amour, le chagrin, la guerre et la mort sont des thèmes qui occupent très souvent une place centrale au Théâtre national somalien. Malgré le défi sécuritaire, les habitants de Mogadiscio sont prêts à vivre au rythme de belles mélodies et assister à nouveau à des pièces de théâtre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les insectes constituent le plus gros groupe d'animaux de la planète et participent à plusieurs processus qui mettent satellites qui permettent la vie sur Terre. Un nouveau rapport suggère qu'ils sont en train de disparaître, ce qui peut être catastrophique, surtout que les hommes de plus en plus se nourrissent d'insectes. Le point avec Chérubin Dorsil.
Plus de 70 études sur les insectes suggèrent que les pressions humaines font chuter les populations d'insectes d'environ un quart par décennie. Max Barclay est entomologiste au Musée d'histoire naturelle de Londres.
Certains de mes collègues l'ont comparé à jouer au Jenga. Vous savez, vous déplacez des blocs de la tour Jenga et tout semble aller pour le mieux, puis vous enlevez un bloc et tout dégringole. La perte des espèces, c'est une pareille catastrophe car nous ne savons pas ce que font ces blocs et nous ne savons pas que d'autres espèces en dépendent.
Les insectes sont les créatures les plus nombreuses et les plus variées sur Terre. Ils représentent plus de la moitié de tous les organismes vivants sur la planète. Ils rendent la vie sur Terre possible à bien des égards. Par exemple, les abeilles et les papillons participent à la pollinisation des fleurs et de nos arbres. Ils nourrissent toutes sortes d'animaux et également les humains. Et les insectes jouent un rôle essentiel dans la décomposition de matières organiques, des feuilles et même des cadavres. Ils disparaissent à cause de l'activité de l'homme, l'agriculture industrielle, l'utilisation des pesticides et la pollution. Pour Mark Wright, du Fonds mondial pour la nature, ne rien faire n'est pas une option.
Pour un grand nombre des produits que nous mangeons, le transport du pollen a été effectué par des insectes. Imaginez un monde où ce processus n'a pas lieu, où nous devons faire le transfert du pollen à la main. Vous imaginez le coût astronomique parce que les insectes ne sont pas là pour faire le travail gratuitement. Si vous parlez de culture vivrière, essayez simplement d'imaginer l'ampleur des dégâts.
Toutes ces études ont été menées dans des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Les chercheurs n'ont pas les données pour recenser et répertorier toutes les espèces d'insectes dans les régions tropicales. Ils prédisent tout de même que toutes les espèces pourraient disparaître d'ici un siècle. C'est sans compter avec la créativité de l'homme. La banlieue de Denver au Colorado abrite le Rocky Mountain Micro Ranch. C'est l'unique ferme d'insectes comestibles. Wendy Lou McGill a fondé son entreprise en 2015. Elle produit près de 275 kilos de grillons et de verres de farine par mois. Au moins 3 douzaines d'entreprises élèvent des insectes destinés à l'alimentation humaine ou animale aux États-Unis. Selon la FAO, nourrir le monde par les protéines de bœuf ou de poulet n'est pas durable. La protéine des insectes est plus tenable. Elle est de haute qualité et contient des minéraux essentiels comme le calcium et le fer. Les vers comestibles, les larves d'insectes, offrent tout cela, plus des graisses utiles pour le développement du cerveau. Les insectes font déjà partie de l'alimentation dans de nombreuses régions du monde. Sur les marchés de Kinshasa, les vendeurs ont des assiettes de grillons vivants capturés dans la nature et de grands bols de larves de charançon africain. Ces insectes sauvages sont abondants à certaines saisons. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde mangent des insectes chaque jour. Ici aux États-Unis, la Food and Drug Administration a confirmé que la consommation de grillons et de vers de farine est sans danger, mais de nombreux Américains restent sceptiques.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. Yeah.
C'était Mokobé et Fali Ipupa. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Nashwan Kali. À la présentation, Morgane Guerriac et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous.